Une heure plus tard, étendu sur le lit d'une chambre, Dalbrec, les poignets solidement attachés, roulait des yeux féroces. Un médecin des environs, ramené par l'auto de Rénine, avait bandé la jambe et prescrit le repos le plus complet jusqu'au lendemain. Morisseau et ses hommes montaient la garde. Quant à Rénine, il allait et venait à travers la pièce, les mains au dos. Il avait l'air fort gai et, de temps en temps, observait les deux sœurs en souriant, comme s'il eût trouvé charmant le tableau qu'elles offraient à ses yeux d'artiste. « Qu'y a-t-il donc ?» lui demanda Hortense lorsqu'elle s'aperçut de son allégresse insolite et qu'elle se fut à moitié tournée vers lui. Il se frotta les mains et prononça « C'est drôle. Qu'est-ce qui vous paraît drôle ?»« Eh mon Dieu, la situation. Rose Andrée, libre, filant le parfait amour. Et avec qui, Seigneur ? Avec l'homme des bois. Un homme des bois domestiqué, pommadé, moulé dans un maillot. Et quel baise à bouche que veux-tu ? Tandis que nous la cherchions au fond d'une grotte ou d'un sépulcre. Ah, certes, elle a connu les affres de la captivité. Et j'affirme que, la première nuit, elle fut jetée à moitié morte dans la caverne. Seulement voilà, le lendemain, elle était vivante. Une seule nuit avait suffi pour qu'elle s'apprivoisât la matine et pour que Dalbrec lui parût aussi beau que le prince charmant. Une seule nuit, et qui leur donne à tous deux l'impression si nette qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils décident de ne plus se quitter et que, d'un commun accord, ils cherchent un refuge à l'abri du monde. Où ? Ici, parbleu ! Qui donc irait relancer Rose Andrée jusqu'au Clos Joly ? Mais ce n'est pas suffisant. Il faut davantage aux deux amoureux. Une lune de miel de quelques semaines ? Allons donc ! C'est toute leur vie qu'ils se consacreront l'un à l'autre. Comment ? Mais en suivant la route charmante et pittoresque sur laquelle ils se sont déjà engagés, c'est-à-dire en tournant de nouvelles créations. Dalbrec, n'a-t-il pas réussi dans La Princesse Heureuse, au-delà de toute espérance ? L'avenir. Mais le voici. Los Angeles, les États-Unis, fortune et liberté. Pas une minute à perdre. Tout de suite au travail. Et c'est ainsi que nous, spectateurs épouvantés, nous les avons surpris tout à l'heure, en pleine répétition, jouant un drame de folie et de meurtre. Je vous avouerai, pour être franc, qu'à ce moment, j'ai eu quelques soupçons de la vérité. Épisode de cinéma, me suis-je dit. Mais quant à deviner l'intrigue amoureuse du Clos Joly, ah, cela, j'en étais à 100 lieues. Que voulez-vous ? Sur l'écran, de même qu'au théâtre, les princesses heureuses résistent ou se tuent. Comment supposer que celle-ci avait préféré le déshonneur à la mort ? Décidément, l'aventure divertit Sérénine. Et il reprit. Non, non, sacrebleu, ce n'est pas de cette façon que les choses se passent dans les films. Et c'est cela qui m'a fait faire fausse route. Depuis le début, je déroulais le film de La Princesse Heureuse. Et je marchais en mettant mes pas dans les empreintes toutes faites. La Princesse Heureuse avait agi ainsi, l'homme des bois s'était comporté de cette manière. Donc, comme tout recommence, suivons-les. Eh bien, pas du tout. Contrairement à toutes les règles, voilà que Rose Andrée prend le mauvais chemin. Et voilà qu'en l'espace de quelques heures, la victime se transforme en la plus amoureuse des princesses. Ah, sacré Dalbrec, tu nous as bien roulés. Car enfin quoi, quand on nous montre au cinéma une brute, une espèce de sauvage à longs poils et à face de gorille, nous avons le droit d'imaginer que dans la vie, c'est quelque brute formidable. Allons donc, c'est un donjon. Farceur, va. De nouveau, Rénine se frotta les mains. Mais il ne continua pas, car il s'aperçut qu'Hortense ne l'écoutait pas. Rose s'éveillait de sa torpeur. La jeune femme l'entoura de ses bras en murmurant « Rose, Rose, c'est moi. ne crains plus rien. » Elle se mit à lui parler tout bas et à la bercer affectueusement contre elle. Mais Rose, peu à peu, et tout en écoutant sa sœur, reprenait sa figure de souffrance et demeurait immobile et lointaine, assise sur le divan, le buste rigide et les lèvres serrées. Rénine eut l'impression qu'il ne fallait pas heurter cette douleur et qu'aucun raisonnement ne pourrait prévaloir contre la décision réfléchie de Rose André. Il s'approcha et lui dit doucement « Je vous approuve, madame. Votre devoir, quoi qu'il puisse advenir, est de défendre celui que vous aimez et de prouver son innocence. Mais rien ne presse, et j'estime que, dans son intérêt, il vaut mieux différer de quelques heures et laisser croire encore que vous étiez sa victime. Demain matin, si vous n'avez pas changé d'avis, c'est moi-même qui vous conseillerai d'agir. Jusque-là, montez dans votre chambre avec votre sœur. Préparez-vous au départ et rangez vos papiers pour que l'enquête ne puisse rien révéler contre vous. Croyez-moi, ayez confiance. » Rénine insista longtemps encore et réussit à persuader la jeune femme. Elle promit d'attendre. On s'installa donc pour passer la nuit au Clos Joly. Il y avait des provisions suffisantes. Un des inspecteurs prépara le dîner. Le soir, Hortense partagea la chambre de Rose. Rénine, Morisseau et deux inspecteurs couchèrent sur les divans du salon, tandis que les deux autres inspecteurs gardaient le blessé. La nuit s'écoula sans incident. Au matin, les gendarmes, prévenus la veille par Clément, arrivèrent de bonne heure. Il fut décidé que Dalbrecq serait transféré à l'infirmerie de la prison départementale. Rénine proposa son automobile, que Clément amena devant la chaumière. Les deux sœurs, ayant perçu des allées et venues, descendirent. Rose Andrée avait l'expression dure de ceux qui veulent agir. Hortense la regardait anxieusement et observait l'air placide de Rénine. Tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à réveiller Dalbrecq et ses gardiens. Morisseau s'y rendit lui-même. Mais il constata que les deux hommes étaient profondément endormis et qu'il n'y avait personne dans le lit. Dalbrecq s'était évadé. Le coup de théâtre ne causa pas, sur le moment, une grande perturbation parmi les policiers et les gendarmes, tellement ils étaient sûrs que le fugitif, avec sa jambe cassée, serait vite repris. L'énigme de cette fuite, effectuée sans que les gardiens entendissent le moindre bruit, n'intrigua personne. Dalbrecq se cachait inévitablement dans le verger. Tout de suite, la battue s'organisa. Et le résultat faisait si peu de doute que Rose Andrée, de nouveau bouleversée, se dirigea vers l'inspecteur principal. « Taisez-vous !» murmura Serge Rénine qui la surveillait. « On va le retrouver, l'abattre à coups de revolver. »« On ne le retrouvera pas. »« Qu'en savez-vous ? » ?»« C'est moi, avec l'aide de mon chauffeur, qui l'ai fait évader cette nuit. » Un peu de poudre dans le café des inspecteurs, ils n'ont rien entendu. « Mais il est blessé, il agonise dans quelque coin. »« Non. » Hortense écoutait, sans comprendre davantage, mais rassurée et confiante en Rénine. Il reprit à voix basse. « Jurez-moi, madame, que dans 2 mois, quand il sera guéri et que vous aurez éclairé la justice en son endroit, jurez-moi que vous partirez avec lui pour l'Amérique. » « Je vous le jure. »« Et que vous l'épouserez ?»« Je vous le jure. »« Alors venez, et pas un mot, pas un geste d'étonnement. »« Une seconde d'oubli, et vous pouvez tout perdre. » Il appela Morisseau qui commençait à se désespérer, et lui dit « Monsieur l'inspecteur principal, nous devons conduire madame à Paris et lui donner les soins nécessaires. En tout cas, quel que soit le résultat de vos recherches, et je ne doute pas qu'elles aboutissent, soyez certain que vous n'aurez pas d'ennui à cause de cette affaire. Ce soir même, j'irai à la préfecture, où j'ai de bonnes relations. » Il offrit son bras à Rose Andrée et la conduisit vers l'auto. En marchant, il sentit qu'elle chancelait et qu'elle s'accrochait à lui. Ah, mon Dieu, il est sauvé, je le vois. Sur le siège, à la place de Clément, elle avait reconnu, très digne dans sa tenue de chauffeur, la visière basse, les yeux dissimulés par de grosses lunettes, elle avait reconnu son amant. Montez. Elle s'assit près de Dalbrec. Rénine et Hortense prirent place dans le fond. L'inspecteur principal, le chapeau à la main, s'empressait autour de la voiture. On partit. Mais 2 kilomètres plus loin, en pleine forêt, il fallut s'arrêter. Dalbrec, qui au prix d'un effort surhumain avait pu surmonter sa douleur, eut une défaillance. On l'étendit dans la voiture. Rénine se mit au volant. Hortense à son côté. Avant Louviers, nouvel arrêt. On cueillait au passage le chauffeur Clément, qui cheminait vêtu de la défroque de Dalbrec. Puis il y eut des heures de silence. L'auto filait rapidement. Hortense ne disait rien et n'avait même pas l'idée d'interroger Rénine sur les événements de la nuit précédente. Qu'importaient les détails de l'expédition et l'exacte façon dont il avait procédé pour escamoter Dalbrec? Cela n'intriguait pas Hortense. Elle ne songeait qu'à sa sœur, et elle était toute remuée par tant d'amour et tant d'ardeur passionnée. Rénine dit simplement, en approchant de Paris, « J'ai parlé cette nuit avec Dalbrec. Il est certainement innocent de l'assassinat du bijoutier. C'est un brave et honnête homme, tout différent de ce qu'il paraît. Un tendre, un dévoué, et qui est prêt à tout pour Rose André. Il a raison. Il faut tout faire pour celle que l'on aime. Il faut se sacrifier à elle, lui offrir tout ce qu'il y a de beau dans le monde, de la joie, du bonheur, et si elle s'ennuie, de belles aventures qui la distraient, qui l'émeuvent et qui la font sourire, ou même pleurer. » Hortense frémit, les yeux un peu mouillés. Pour la première fois, il faisait allusion à l'aventure sentimentale qui les unissait par un lien fragile jusqu'ici, mais auquel chacune des entreprises qu'ils poursuivaient ensemble, dans l'angoisse et dans la fièvre, donnait plus de force et plus de résistance. Déjà, près de cet homme extraordinaire qui soumettait les événements à sa volonté et semblait jouer avec le destin de ceux qu'il combattait ou qu'il protégeait, elle se sentait faible et inquiète. Il lui faisait peur à la fois et l'attirait. Elle pensait à lui comme à son maître, quelquefois comme à un ennemi contre qui elle devait se défendre, mais le plus souvent comme un ami troublant, plein de charme et de séduction.